dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes.
Salut, salut. Après un trou en décembre et janvier, on est enfin de retour en podcast. Je suis très content de pouvoir vous proposer un nouvel épisode aujourd'hui. Pour la suite, je pense que le prochain épisode, le numéro 11, ne sortira pas en mars, mais plutôt en avril. Je ne vais pas vous mentir, il n'est pas encore enregistré. À part les interviews, je planche en ce moment sur d'autres formats et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ça avec vous bientôt. Il y a des trucs sur lesquels je suis vraiment hypé. Et sinon, pensez à vous abonner aux réseaux sociaux du podcast sur Facebook et Twitter. J'y relaye et synthétise beaucoup de rendez-vous militants à venir parce que j'ai le sentiment que justement nos mobilisations ont besoin de gagner en visibilité. C'est promis. Je ne relayerai pas les dates des meetings de Christiane Taubira ou Fabien Roussel. Bref, aujourd'hui, on est avec Kim. Kim est une personne blanche, à genre, avec qui on a utilisé le pronom « il ». Il fait partie du mouvement Squat et se revendique de l'autonomie politique et de l'anarchisme. C'est un toto, et il va nous expliquer ce que ça veut dire. On a aussi beaucoup parlé de l'histoire, de l'organisation interne, de la nécessité de créer et organiser un lieu collectif de lutte. On a pris pour cela l'exemple du centre social autogéré 38, aussi appelé Tchoukar, situé dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble. J'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que je suis à un stade où justement, il me paraît très important de créer, de faire vivre, ici et maintenant, des lieux qui soient autant que possible arrachés des logiques capitalistes et des systèmes d'oppression. Parce que ces lieux nous aident à nous organiser et lutter déjà, et parce que ça nous fait du bien, surtout. Je m'appelle Sam, je suis un mec cisgenre racisé, mon pronom c'est il. Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Rue des Bons Enfants.
Dans la rue des Bons Enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse.
Salut Kim, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast Rue des bons enfants. Comment ça va ?
Eh ben, ça va bien, il fait juste un peu froid parce que le centre social n'est pas très bien chauffé, mais sinon ça va.
On est à Grenoble en plein hiver, il faisait moins 4, moins 5 degrés ce matin effectivement. Alors pourquoi est-ce qu'on est là? On s'était rencontrés à l'été 2021, à l'occasion de journées de soutien pour plusieurs militants, militantes, poursuivis pour associations de malfaiteurs. Et lors de ces journées, une discussion avait été organisée autour de ce sujet, l'association de malfaiteurs, et notamment en quoi cet outil judiciaire est utilisé par l'État pour réprimer le mouvement social. Et tu étais intervenu sur ce sujet. Et donc je t'avais alors proposé d'intervenir dans mon podcast, et nous voilà donc aujourd'hui pour faire cet enregistrement. Merci d'avoir accepté.
Ben, merci pour l'invitation.
Alors, ma première question, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Alors moi je m'appelle Kim, je suis un mec blanc qui a fait des études supérieures. Et pour les pronoms, vous pouvez utiliser ce qui vous fait plaisir, je m'en fiche un peu parce que je suis à genre aussi. Et sinon, je suis anarchiste et je milite dans pas mal de domaines divers et variés.
Alors justement, ouais, c'est quoi les sujets qui te tiennent à cœur en ce moment et de quelle façon est-ce que tu t'impliques ?
Alors il y a pas mal de sujets qui me tiennent à cœur. Je milite pas mal dans le domaine de la précarité et de l'accès au logement. Puis je suis aussi beaucoup sur la lutte contre la répression, comme la fois où on s'est rencontrés. Et après, je suis assez intéressé par pas mal de sujets comme l'écologie, comme les dérives sectaires, l'extrême droite. Et globalement, je cherche à créer une... par mon mode de vie et par mes actions, à créer une contre-société où toutes les personnes puissent se sentir incluses et vivre heureux. J'habite en squat et je participe au mouvement squat pour d'autres gens qui ont besoin. Et je suis aussi militant au Droit au logement, qui est une association qui s'occupe de l'accès au logement, autant pour les personnes qui n'ont pas du tout de logement que pour les personnes qui ont déjà des logements, mais qui ont des embrouilles avec leurs propriétaires ou qui ont des problèmes d'insalubrité, etc., et qui cherchent à améliorer leur situation en luttant tous ensemble entre les mal logés et les non logés. Je suis aussi dans un collectif anti-répression pour lutter contre les types de répression qu'on a en général sur les militants par rapport aux manifestations, sur les actions, et aussi pour la répression plus générale sur les non-militants, mais on est moins spécialisé là-dedans parce que tous les membres du collectif anti-répression sont des militants. Du coup, c'est plus facile de lutter sur ce terrain-là que sur des terrains plus larges et qu'il y a aussi des associations qui s'occupent de sujets spécifiques que nous, on n'est pas spécialisé. Du coup, il vaut mieux leur laisser la place. Par exemple, sur l'aide aux migrants, on n'y connaît pas grand-chose. Et du coup, autant laisser ça aux associations spécialisées qui seront plus performantes pour pouvoir les aider. Je suis aussi assez actif dans un centre social, le 38 rue d'Alembert, centre social Choucard, où il y a beaucoup d'activités. Du coup, il y a un magasin gratuit, il y a un atelier vélo, il y a des cantines, il y a pas mal d'activités de bricolage, il y a un collectif qui s'appelle les Brigades de solidarité populaire qui récupère de la nourriture et du matériel pour des personnes qui n'ont pas de facilité à y avoir accès et qui les redistribuent, du coup notamment par pas mal de récup de nourriture du marché ou de supermarché qu'on va redistribuer dans des marchés gratuits deux fois par semaine. Globalement, je cherche à vivre sans argent aussi, c'est ça mon activité économique principale, ou non activité économique principale, je ne sais pas comment dire, et je fais pas mal de bricolage.
Alors, je pensais qu'on allait y revenir un petit peu plus tard, mais vu que tu abordais le sujet, donc du coup, on est au 38 au centre social autogéré du quartier Saint-Bruno. Tu nous as déjà un petit peu parlé du lieu. Est-ce que tu peux nous parler du début, de comment le lieu a été créé, entre guillemets?
Alors, ça a été ouvert il y a 7 ans. Moi, je n'étais pas encore là il y a 7 ans. Du coup, je ne peux pas vous donner tous les détails. Si j'ai bien compris, il y avait pas mal de gens sur le quartier qui avaient des activités ensemble, un collectif un peu. Il y avait par exemple une cantine populaire qui avait lieu sur la place Saint-Bruno tous les samedis. Qui là et qui a continué jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais là qui est un peu en pause avec le Covid, c'était un peu compliqué. Tous ces gens-là, ils avaient besoin d'un espace pour créer des activités pour le quartier, et notamment une grosse cuisine pour la cantine, de l'espace de stockage pour les tables. Et il y avait cette ancienne école abandonnée qui appartenait en partie à la mairie et en partie à une entreprise privée qui a été occupée sans demander l'autorisation à qui que ce soit pour héberger ces activités-là. Et depuis, le lieu est resté et les activités se sont assez étendues avec du coup un magasin gratuit, un atelier vélo, une salle de cinéma, un dojo, plein d'espaces comme ça qui permettent de faire des réunions, des activités diverses et variées et qui permettent à plein d'acteurs du quartier et de militants d'avoir des espaces pour faire ce qu'ils ont besoin de faire.
Parce que du coup, il y a à la fois des enjeux, on va dire, politiques et militants pour pouvoir s'organiser, et aussi un enjeu social au cœur du quartier.
Oui, c'est les deux en même temps. En gros, on veut pas séparer les deux. On veut que les personnes militantes puissent avoir des lieux, ressources pour s'organiser et qu'en même temps, le lieu serve aussi pour faire des activités sociales pour le quartier. Et les deux vont ensemble, en fait. Les activités sociales, c'est quelque chose que les militants cherchent à créer, en tout cas dans le milieu autonome. En tout cas, c'est quelque chose qu'on cherche à créer des choses. Et du coup, c'est important que ça puisse exister en parallèle du fait de s'organiser pour des luttes politiques moins locales.
Ok.
Et du coup, les deux ne sont pas vraiment séparés. Par exemple, quand il y a eu des expulsions de bidonvilles il n'y a pas très longtemps, le fait qu'il y a un magasin gratuit avec des vêtements, des matelas, des choses comme ça qui étaient disponibles. Ça a permis à des militants qui militaient plus sur le logement de pouvoir amener immédiatement tout le matériel qu'ils avaient besoin à des gens qui étaient dans la merde, mais ailleurs. Et enfin, c'était les deux sont complémentaires et travaillent ensemble en fait.
D'accord. J'avais une question sur l'organisation interne du lieu et sur la façon dont les décisions sont prises. Vu que j'imagine qu'il y a une multiplicité de personnes qui participent à la vie du lieu et aussi une multiplicité d'organisations, comment est-ce que vous faites pour décider des orientations du lieu et en même temps décider de comment faire pour que les décisions soient prises de la façon, on va dire, la plus démocratique possible, qu'il n'y ait pas de rapport de force, de rapport de domination qui se réinstalle à l'intérieur entre peut-être une grosse organisation et d'autres plus petites, ou entre des individus et des orgas, ou comment tenir compte de ces problématiques-là sous-jacentes?
Déjà, ces problématiques-là, on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, parce que malgré tous nos efforts, elles existent quand même. Et même si on cherche à les minimiser, on n'est pas infaillible et il y a des moments où c'est compliqué quand même. Mais du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que le lieu, il y a plein d'espaces différents, de groupes différents qui s'organisent. Et on essaye de faire en sorte que chaque groupe, à la plus petite échelle possible, soit capable de prendre toutes les décisions qu'elle a envie de prendre tout seul, sans concerter avec le reste du groupe. Par exemple, si y a une cantine qui a envie d'acheter un nouveau mixeur, ce n'est pas la peine d'organiser une grosse assemblée avec tout le monde pour acheter un nouveau mixeur. Par contre, c'est plus pour les décisions qui peuvent impacter les autres collectifs qui s'organisent aussi. Là, on est obligé de discuter un peu plus tous ensemble et du coup, on a deux assemblées par mois où les gens extérieurs peuvent venir proposer leurs activités et les gens en intérieur du lieu peuvent aussi proposer des activités. Et on va prendre aussi toutes les décisions qu'il y a besoin de prendre pour la vie du lieu qui impactent tous les collectifs, comme réattribuer une salle ou faire des travaux ou organiser une soirée ou des choses comme ça. Tout ce qui peut créer un conflit d'usage doit être décidé en assemblée. Et tout ce qui a peu de chances de créer un conflit d'usage, a priori, le collectif qui l'apporte peut la décider tout seul sans consulter personne. C'est assez spontané sur tous les petits sujets et dès que le sujet prend une ampleur assez importante et qu'on est un peu obligé d'en discuter collectivement, là, ça passe par les assemblées.
Et du coup, quels sont les rapports aujourd'hui avec la municipalité de Grenoble?
Pendant plusieurs années au début de la vie du lieu, il n'y avait pas de rapport du tout avec la municipalité. C'était une occupation sans droit ni titre. Il n'y avait pas de lien entre la mairie qui était propriétaire puis gestionnaire et les occupants. Et au bout d'un moment, la mairie a essayé de nous imposer une convention d'occupation. Et du coup, il y a eu des négociations qui étaient assez longues et qui étaient pas très fructueuses à plusieurs reprises et qui ont été abandonnées plusieurs fois parce que les interlocuteurs à la mairie ont changé plusieurs fois et qu'il y a des moments où c'était les élections, du coup ils étaient moins intéressés pour nous mettre la pression là-dessus. Et des moments où nous on était occupés sur plein de choses, du coup on leur a moins répondu et ils nous ont pas relancé. Le fait que le lieu n'ait pas de représentant légal actuellement, c'est assez confortable. Ça évite qu'il y ait une responsabilité qui soit portée devant la loi ou devant qui que ce soit. Récemment, le propriétaire du lieu, qui du coup est l'établissement public foncier local du Dauphiné, qui est une réserve foncière, qui est gérée par la métro et quelques communes alentours, et qui rachète tous les bâtiments vides que les municipalités ont, pour ensuite trouver des projets immobiliers à faire dessus et les redonner à des promoteurs pour faire des logements sociaux ou des logements pas sociaux ou des centres commerciaux ou peu importe. Du coup, c'était le PFL qui possédait le bâtiment et qui avait délégué la gestion à la mairie parce que le PFL n'a pas de salariés. Pour des embrouilles politiques un peu internes à la métropole, c'est peut-être un peu long à expliquer, mais en gros, la présidence de le PFL est passée à droite, même si la majorité de la métropole est à gauche. Et comme la droite n'aime pas trop centres sociaux autogérés par des anarchistes qui font du social et des actions militantes. Ils ont mis assez rapidement un permis de démolir sur le bâtiment, ce qui était un peu embêtant. Et finalement, la mairie a fait annuler le permis de démolir et après nous a proposé une nouvelle phase de négociation pour nous proposer de racheter le lieu. Bon, évidemment, nous, on n'était pas très chaud de racheter un bâtiment qui vaut 330 000 euros. Et finalement, à la fin des négociations, ce qui a été conclu, c'est que la mairie, a priori, serait d'accord de racheter le bâtiment à l'EPFL et ensuite de nous faire un bail emphytéotique de 40 ans sur le bâtiment. Après, c'est bien parce que du coup, ça nous donne une stabilité pendant 40 ans. L'inconvénient, c'est que du coup, il va falloir qu'on fasse beaucoup de travaux de mise aux normes. Les architectes ont chiffré les travaux à 400 000 euros. Mais on va faire une bonne partie en autoconstruction, du coup ça nous coûtera moins cher. Et puis notre budget annuel risque de passer aux environs de 15 000 euros par an, ce qui est beaucoup pour un lieu qui est entièrement gratuit ou à prix. Nous, c'est très clair qu'on veut avoir aucun lien avec la mairie à l'intérieur de nos activités. Du coup, on ne les laissera jamais rentrer dans le bâtiment, on n'acceptera jamais aucune subvention et on leur a demandé de jamais nous utiliser dans leur com municipal et a priori, ils sont d'accord. Voilà, et puis si jamais ça arrive quand même, on râlera et ils savent qu'on ne va pas se laisser faire non plus s'ils cherchent à nous récupérer. Et l'avantage pour la mairie, c'est que du coup, ils ont une sorte de MJC autogéré qui ne leur coûte pas un copec dans un quartier où ils ne font pas grand-chose de base. Et en même temps, ça pose question parce que le fait qu'on accepte de se légaliser, c'est aussi quelque chose qui crée un précédent et qui risque de rendre plus difficile pour les autres squats de Grenoble. Le fait de refuser une légalisation, pareil, ça crée les bons squatteurs contre les mauvais squatteurs et que ça peut être exploité pour réprimer plus facilement les autres squats. Et du coup, il faut qu'on arrive à capitaliser sur le fait qu'on ait fait ce pari de se légaliser sans que... Enfin, il faut vraiment qu'on arrive à en faire quelque chose de bien. Parce que si c'est juste se légaliser pour se légaliser et que... on finit par participer à la gentrification du quartier, à marginaliser les autres squats et tout ça, et ben, ça aurait été un très mauvais pari et il aurait mieux valu pas le faire.
La gentrification, c'est un processus de transformation de quartiers populaires dû à l'arrivée de catégories sociales plus favorisées.
Alors, toujours sur ce thème, je te propose qu'on écoute ensemble un extrait d'une interview dont je te parlais tout à l'heure, donc menée par la revue Ballast. Donc, interview de la sociologue Sylvaine Bull et de l'historien Alessandro Stella dans le cadre du dossier de Ballast intitulé « Que faire ?», publié 2 jours avant notre enregistrement. Le sujet principal de cette interview, c'est l'autonomie. Et dans cet extrait, Sylvaine Bull s'exprime sur la possibilité de créer des formes d'autonomie dans les espaces ruraux.
Ce n'est pas possible en ville pour la raison qu'il y a aliénation foncière. En ville, il y a des contre-cultures, mais ce qui se produit de déterminant au niveau politique se fait en dehors des métropoles. Des formes d'autonomie compactes en métropole sont impossibles, car c'est dans ces espaces que l'État est le plus fort, le plus présent et le plus aliénant. En termes de stratégie, ou plutôt de tactique, on a intérêt à aller à l'écart. C'était, semble-t-il, la stratégie des néo-ruraux du plateau de Millevaches dès le début. Trouver des îlots refuges où il soit possible de réarmer des formes de critique, d'actions qui ne sont plus possibles en ville. Il est difficile de tenir un squat plus de 3 jours et il est impossible d'échapper aux lois sur l'état d'urgence ou le Covid. Dans des collectifs en Ariège, par exemple, avec qui nous sommes en contact, il n'y a pas ce même maillage coercitif du système marchand et politique qu'on a en ville. Aussi, il est important de voir comment la crise climatique crée des affects particuliers chez les autonomes dans les nouveaux collectifs s'organisant, mais pas seulement, lesquels impliquent un redimensionnement de l'action politique. Des personnes qui étaient peu ou pas politisées sentent la nécessité de faire autrement, de se délier du système marchand dans toutes les sphères de l'existence.
Est-ce que tu es d'accord avec cette idée selon laquelle en fait, ce serait beaucoup plus simple de s'organiser en autonomie à l'abri des grands centres urbains, peut-être plus à l'abri de la répression?
Moi, je ne suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, empiriquement, je vois que l'autonomie est possible en ville et je la vis, en fait. Clairement, ce n'est pas les mêmes contraintes qu'à la campagne, mais en fait, il y a un certain nombre d'avantages à être en ville quand on cherche à développer des luttes autonomes. C'est que déjà, c'est beaucoup plus facile de trouver des camarades avec qui on a envie de travailler, puisque les gens sont beaucoup plus concentrés. Et puis après, au niveau matériel, la quantité de bâtiments vides, industriels, qui sont possibles de squatter, la quantité d'appartements qui sont vides, qui sont possibles de squatter, la quantité de matériaux, de chantiers, de déchetteries sur lesquels on peut récupérer plein de choses, le fait qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une voiture pour se déplacer, etc., c'est des choses qui font qu'au final, pour vivre de la récup, pour faire des choses avec pas grand-chose, en ville, c'est intéressant aussi. Après, c'est sûr, au niveau... si on parle d'une autonomie alimentaire, par exemple, la ville, c'est moins évident. Mais si on parle d'une autonomie de transport et de matériaux de construction, par exemple, la campagne, c'est pas évident non plus. Et du coup, il y a besoin des deux et de travailler ensemble entre ville et campagne. Et il y a plein de choses qui sont possibles de faire en ville aussi. Et je vois pas le problème de chercher à atteindre une certaine forme d'autonomie en ville.
Et sur la question de la répression, je pense à cette question parce que on en avait parlé cet été. Je t'avais parlé de l'expulsion de la Maison du Peuple à Nantes. Ils et elles ont essayé de réoccuper le lieu duquel ils et elles avaient été expulsés, donc rue Louis-Préaubert. Une fois qu'ils sont à nouveau dedans, la police vient immédiatement, essaye de les sortir, et du coup, on voit qu'ils sont dans une logique de négociation avec la municipalité pour essayer de trouver une solution. Et en tout cas, maintenant, la municipalité et la préfecture sait que il ne faut pas les laisser rentrer ou il faut les faire sortir tout de suite. Ils ont cette vigilance-là vis-à-vis d'empêcher le squat dès la racine, quoi.
Oui, ça c'est un problème qu'on a aussi à Grenoble. À chaque fois qu'on cherche à squatter des bâtiments très visibles, assez rapidement, il y a la police qui vient et qui fait des expulsions illégales et qu'on n'a vraiment rien à faire des procédures légales par rapport aux expulsions. Ça dépend vraiment des périodes, à quel point ils sont arc-boutés sur... la lutte contre les occupations ou pas. Et effectivement, en ce moment, c'est un peu plus dur qu'il y a quelques années, j'ai l'impression. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de squatter. Par exemple, les appartements. À Grenoble, il y a 20 000 logements vides, en fait. Ça, c'est les chiffres que l'INSEE récupère auprès des impôts. C'est les bâtiments qui sont déclarés comme vides par leurs propriétaires. Sur 20 000 logements vides, il y a possible d'en trouver des appartements et pour de l'habitation assez facilement. Ça arrive assez souvent que les propriétaires se rendent même pas compte qu'ils sont squattés parce qu'ils ont tellement de logements vides que du coup, ils s'en préoccupent pas. Moi, par exemple, là où j'habite dans un squat. Pendant 6 mois, le propriétaire ne s'est pas rendu compte que j'y habitais. Et après, il y a des gens qui se sont installés dedans, en plus de moi. Du coup, il y avait beaucoup plus de présence et c'était plus dur de cacher que c'était occupé. Et le propriétaire a mis encore 6 mois pour obtenir un jugement, pour obtenir l'expulsion. Et au final, la préfecture n'a jamais appliqué ce jugement pour nous expulser jusqu'à maintenant. Et ça fait 11 mois qu'on est expulsable. Il n'y a pas de police en vue pour l'instant. Enfin, le fait d'occuper des bâtiments, c'est quelque chose qui est toujours possible. Après, effectivement, le fait de vouloir avoir une vitrine un bâtiment très, très visible, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure période pour ouvrir ça. Mais il y a plein d'autres manières d'ouvrir des bâtiments. Dans tous les cas, si on veut trouver des solutions, on en trouve. Et effectivement, oui, il faut après faut peser le pour et le contre d'utiliser des méthodes légales, des méthodes illégales et trouver celles qui sont les plus adaptées. Mais on finit toujours par trouver une voie utile pour faire ce qu'on veut. Même si le squat devenait impossible, on pourrait continuer à faire de l'autonomie en ville, en fait.
Comment est-ce que tu en es arrivé à squatter ?
Alors moi, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait un master. Déjà, en commençant mes études, je savais que j'avais pas envie de travailler pour l'industrie lourde et tout ça, et que j'étais déjà un anarchiste radicalisé sur Wikipédia au collège. Et du coup, je faisais des études surtout parce que le sujet me plaisait. Quand j'ai fait mon stage de fin d'année, etc., de fin de master, etc., j'ai été payé pendant 6 mois au SMIC, ce qui représente énormément d'argent pour moi parce que je suis pas du tout matérialiste. Je prends aucun plaisir à acheter des choses ou à les posséder. Et du coup, je continue à dépenser 250 euros par mois. Et après, du coup, ça m'a fait un petit pécule sur mon compte en banque. Et du coup, je me suis dit que j'allais me laisser le temps de chercher une activité qui me plaisait, a priori en pensant plutôt à une activité économique classique. Et du coup, j'ai loué un petit studio dans l'agglo. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis dit que le fait de ne pas avoir d'activité économique comme ça, c'était un mode de vie qui me convenait en soi. Et du coup, j'ai cherché le moyen de maintenir cette activité-là le plus longtemps possible. Et du coup, je me suis dit que le mieux, ce serait d'arrêter de dépenser de l'argent pour ne pas avoir en gagner. Du coup, globalement, le squat, c'est assez adapté pour faire ça. Et là, actuellement, comme je squatte, je ne paye pas de loyer. Je paye pas d'eau, je paye pas d'électricité, j'ai pas de voiture, j'ai pas de poste de dépense comme ça. Je fais beaucoup de récup et je dépense en gros pour du téléphone, un peu des choses qu'on trouve pas en récup et tout ça. Je dépense à peu près 20 euros par mois et du coup, clairement, j'ai pas besoin de travailler et ça me libère beaucoup de temps pour faire toutes les autres choses que j'ai envie de faire et ça me va comme ça. Après, c'est sûr, c'est pas un mode de vie qui est adapté à toutes les personnes et toutes les situations, clairement. Mais moi, ça me convient bien comme ça.
Tu en as déjà un peu parlé, mais c'est quoi, d'après toi, les enjeux politiques qui sont liés au squat ?
Oh là, bah, il y en a plein. Le fait de squatter, ça permet de s'autonomiser un peu de la temporalité capitaliste, un peu, qui veut que tout le monde et une activité économique pour gagner de l'argent, le fait d'avoir un travail et tout ça. Et le fait d'habiter en squat, en fait, ça permet de se libérer de ça et d'avoir une autre temporalité qui nous permet d'être libre de faire autre chose. Ça peut, enfin, moi, je m'en sers pour faire du militantisme politique, mais dans l'absolu, je pourrais faire autre chose à la place. Et puis, sinon, le squat, ça permet aussi de récupérer sans dépenser d'argent des bâtiments. Et du coup, pour tout ce qui est faire une lutte pour le logement, c'est assez efficace, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui sont à la rue aujourd'hui. Et le fait que, par exemple, à Grenoble, s'il y a 20 000 logements vides et 4 000 personnes à la rue, selon les chiffres officiels, la solution... Du coup, le squat, ça participe à la résolution du problème de l'absence de logement ou des logements insalubres, etc. Même si, effectivement, si l'État s'occupait de ce problème-là, ce serait peut-être plus efficace que si c'était des squatteurs qui étaient obligés de s'occuper du problème. Mais bon, comme l'État est un État capitaliste, il fait bien son travail et il garde les gens bien dehors. Plus politiquement, en tant qu'anarchiste, le fait de s'attaquer directement à la propriété privée et à la loi, c'est politiquement cohérent. et ça, c'est assez efficace. Et sinon, au niveau plus de l'aménagement des squats, contrairement à quand on a un bail, en fait, on peut faire ce qu'on veut dans un squat parce qu'on n'a pas de compte à rendre au propriétaire. Et du coup, si on a envie de faire un trou dans un mur pour accrocher des prises d'escalade ou abattre une cloison pour faire une grande salle d'activité ou de repeindre en rose fuchsia, ben on peut en fait, alors que dans un bâtiment loué, ben, ça crée des conflits avec les propriétaires. Et du coup, ben, c'est vachement plus de liberté dans la façon dont on habite. Et puis sinon, c'est aussi l'occasion de rencontrer pas mal de gens et d'apprendre plein de nouvelles compétences. Enfin, assez rapidement, quand on a squatté pendant 2-3 ans, on devient plombier, électricien, serrurier, peintre en bâtiment, carreleur. Assez vite, on apprend à faire plein de choses, à rencontrer plein de gens, plein de gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés autrement. Et du coup, c'est assez agréable.
Tu as parlé de propriété privée. Est-ce que tu penses qu'il faut remettre en cause la propriété privée et du coup, tu penses que le squat, c'est une façon de la remettre en cause?
La propriété privée, pour moi, elle a aucune utilité sociale. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui sert à rien et qui est un concept complètement nuisible. La propriété privée des logements, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le privilège de ne pas dormir dehors et qui vendent ce privilège à d'autres gens qui ne l'ont pas, et pour se faire de l'argent, alors qu'en fait, il y a assez de logements pour tout le monde. Du coup, moi, personnellement, je suis pour une propriété d'usage, c'est-à-dire que les gens qui habitent dans un bâtiment devraient avoir la gestion du bâtiment en question, et que je ne vois pas pourquoi des capitalistes devraient l'avoir. Du coup, oui, je suis pour l'abolition de la propriété privée des logements. Et le squat, ben c'est un moyen d'action directe pour mettre en place ce programme politique-là, quoi.
Est-ce que tu te revendiques? Est-ce que tu considères que ta façon de t'engager relève de l'autonomie politique? Si oui, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, je pense qu'on peut dire que je fais partie de la tradition politique de l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est vraiment chercher à s'organiser sans déléguer son pouvoir d'action, sans déléguer son pouvoir de lutte, c'est-à-dire pas accepter que notre combat soit porté par des élus, par des grosses organisations de masse, mais porter nous-mêmes les combats qu'on a envie de porter. Et du coup, c'est vraiment refuser que notre moyen d'action principal, ce soit de participer à une organisation de masse et porter principalement l'action directe comme moyen de résolution de nos problèmes.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, action directe?
C'est des actions qu'on va mener, qui n'ont pas pour but de changer les choses par un intermédiaire. Par exemple, si on organise une manifestation pour que le gouvernement fasse passer une loi, c'est pas une action directe. Si on cherche à changer l'opinion publique sur un sujet pour faire changer les choses, c'est pas une action directe. Mais par exemple, si on veut mettre en place la gratuité des transports en commun, organiser une fraude massive des tickets de bus par exemple, ça c'est une action directe parce que on a un problème et on résout directement le problème sans passer par des organisations intermédiaires ou des élus, des corps intermédiaires qu'on ne maîtrise pas. Là, c'est directement les gens qui ont le problème qui trouvent une solution sans intermédiaire. Par exemple, sur le centre social, il y avait besoin d'un bâtiment pour faire des activités. Et ben, le bâtiment a été occupé et il y a des activités dedans et on n'a pas besoin d'un parti politique, d'un syndicat ou de quoi que ce soit pour mettre ça en place. On peut le faire directement entre personnes intéressées.
Mais est-ce que, du coup, tu penses que ça découle d'un genre de défiance vis-à-vis des partis politiques, des syndicats, des élus?
Il y a une part de défiance parce que, historiquement, par exemple, sur les élus, on voit bien que il y a toujours une certaine forme d'écart entre ce que les gens qui votent pour quelqu'un et ce que la personne va faire à la fin. Et cet écart-là, quand on est dans l'action directe, il n'y a pas d'écart en fait. C'est ceux qui veulent qui font, et du coup, il n'y a pas cette perte-là de sens politique dans les actions. Il y a cette part-là de défiance, et pareil pour les syndicats. Il y a des moments où les syndicats, ils ont servi à faire de la co-gestion, négocier avec les patrons, etc. Quand on est dans l'action directe, il n'y a pas d'intermédiaire. Du coup, il n'y a pas un moment où on va faire des concessions ou des choses comme ça, sauf si on les décide nous-mêmes. Et du coup, il n'y a pas de risque de trahison, entre guillemets, même si les syndicats ne cherchent pas à trahir les salariés ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas d'intermédiaire qui va avoir des intérêts différents des gens qui militent directement. Personnellement, si je suis dans l'autonomie, c'est pas spécialement pour des raisons de défiance, c'est pour des raisons d'efficacité. J'ai l'impression que quand on est dans des réseaux d'affinités qui sont vraiment à la base et qu'on prend des initiatives, on va gagner vraiment du temps en fait, de l'efficacité. On va pouvoir mettre en place des moyens très rapidement. Par exemple, au moment du deuxième confinement, on était quelques-uns à vouloir mettre en place des distributions alimentaires parce qu'on avait remarqué que pendant le premier confinement à Grenoble, c'était quelque chose qui était insuffisant, qui manquait. Et puis aussi qu'il y avait, par exemple, la police qui était venue faire des contrôles d'identité devant des centres de distribution alimentaire, des choses comme ça. Plein de problèmes comme ça qui faisaient qu'on pensait qu'il y avait un manque dans le social à Grenoble. Et du coup, on a proposé une réunion, et en 2 jours, il y avait une grosse réunion avec une cinquantaine de personnes au centre social qui sont venues pour discuter de ça. Il se trouve qu'il y avait une partie des gens, des groupes, qui avaient fait une grosse récup de jambon de poulet, et un autre groupe qui avait récupéré plein de pain, et on n'a pas perdu de temps. Le lendemain, c'était déjà une distribution de sandwich au poulet, en fait. Et bon, les sandwichs au poulet, c'est dommage, c'est pas vegan. Mais alors que si on avait dû organiser ça avec la Croix-Rouge, par exemple, ça aurait pris des mois de tout organiser. Et au moins, ça allait vite, quoi. Il n'y avait pas besoin de se poser de questions, d'alimenter une organisation très lourde à déplacer pour commencer à agir, en fait. Juste, on se pose, on voit qu'est-ce qu'on a envie de faire et on le fait, quoi.
Ce que je comprends de ce que tu décris, c'est qu'il y a une logique d'être dans le changer les choses ici et maintenant, parce que ça nous touche directement, parce que ça nous concerne directement, et aussi parce que
c'est ça sur quoi on a prise là maintenant. Je veux bien changer des choses plus vastes sociales, mais juste je peux pas le faire en claquant des doigts, alors que résoudre des problèmes concrets là maintenant tout de suite, je peux.
Ok, donc il y a une question aussi de pouvoir d'agir, j'allais dire. Okay. Mais du coup, comment est-ce que cette façon de faire, est-ce qu'elle s'inscrit dans un horizon de transformation sociale plus radicale de l'ensemble de la société, sur tous les aspects, à partir du moment où si tu me dis en fait, il faut combattre le capitalisme, l'État et le capital, est-ce que ça s'articule d'une certaine façon avec aussi cet horizon qui est beaucoup plus lointain, on va dire, ou plus général, quoi?
L'autonomie, le fait de lutter ensemble pour faire des choses, c'est pas seulement créer des groupes informels pour faire de l'action directe. C'est aussi une façon de s'organiser qui est... Si on s'autonomise du capitalisme, globalement, on est... Enfin, par exemple, là, avec les brigades de solidarité populaire ici au centre social, on récupère des grandes quantités de nourriture sur les fins de marché, dans les poubelles des supermarchés, etc. On ramène tout au centre social et après, ça va permettre de redistribuer. Mais ça permet aussi, pour nous, quand on récupère à manger, de ne pas avoir à acheter à manger. Et du coup, on n'a plus la pression de devoir gagner l'argent qu'on va dépenser. Et du coup, on résout des problèmes concrets Et en même temps, le fait de résoudre des problèmes concrets, ça permet de s'émanciper des problèmes plus larges qui concernent toute la société. Et si on arrive à étendre ça, enfin, plus il y a de pratiques autonomes comme ça, plus c'est quelque chose qui est étendu, et moins les instances centralisées comme l'État, le capitalisme, moins ils ont de prise sur nos vies, en fait, et plus on est indépendant. Par exemple, si tout le monde squattait, la propriété privée pour faire de la location n'existerait plus. Et du coup, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de ne pas chercher à créer des organisations de masse et le fait d'avoir un effet de masse si on est nombreux à faire des choses par des petites initiatives locales et indépendantes.
Mais autant, il y a des organisations qui assument le fait qu'elles ont une vocation à se massifier, je pense à des organes écolos par exemple, et donc qui, en partant de ce constat-là, essayent justement d'aller chercher les gens pour les faire rejoindre la lutte et avec leur façon de lutter, leur modalité, quoi. Mais tandis que ce que moi je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même moins cette volonté d'aller évangéliser d'autres personnes à côté pour leur dire bah, « venez faire comme nous, c'est cool ». Quoi.
Non, mais par contre, quand on agit directement, bon, le sens a un peu été changé avec l'histoire du truc, mais c'est la propagande par le fait, en fait.
S'il l'utilise dans un sens un peu différent, Kim fait allusion à la propagande par le fait, qui est historiquement une stratégie politique mise en œuvre par certains et certaines anarchistes qui usent d'actes tels que les attentats ou sabotages pour faire passer des messages politiques à un public et générer un rapport de force avec un adversaire. La fin du XIXe siècle est la période la plus célèbre de la propagande par le fait. Elle est marquée par les assassinats et tentatives d'assassinat de plusieurs rois et empereurs. L'explosion de la bombe d'Émile Henry au commissariat de la rue des Bons-Enfants, à Paris, en 1892, est un exemple de propagande par le fait.
Le fait de faire des actions qui sont révolutionnaires, que ce soit des actions violentes ou pas, en fait, juste le fait de mettre en place des choses, ça montre aux autres que c'est possible et ça leur donne éventuellement envie de le faire. Et il n'y a pas besoin d'aller distribuer des tracts avec des textes super théoriques pour expliquer aux gens que s'ils ont envie de faire des choses, et ben juste ils vont parler à leurs voisins et s'ils sont d'accord sur ce qu'il y a à faire, et ben ils le font ensemble et c'est fait. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire du prosélytisme si ce qu'on fait est suffisamment parle aux gens, en fait. Les gens vont juste nous rejoindre. Si on est inséré dans la société tout en s'autonomisant de cette société-là, eh ben, on va entraîner d'autres gens avec nous et il n'y a pas besoin de faire des organisations de masse pour ça. Ce n'est pas incompatible, hein, les deux ne sont pas en opposition. C'est deux stratégies différentes qui peuvent être complémentaires, mais qui ne sont pas... Enfin, l'une n'est pas nécessaire à l'autre, quoi.
Alors, c'est un peu justement la question que j'allais te poser après. Qu'est-ce que l'autonomie, ça implique vis-à-vis des autres organisations et du fait de la possibilité de s'organiser avec les autres organisations localement?
J'ai l'impression, à Grenoble, on arrive à avoir des rapports assez complémentaires parce que on n'a pas les mêmes modes d'action et on n'a pas les mêmes temporalités dans nos actions. Et en même temps, on s'entend bien avec beaucoup d'organisations politiques et beaucoup de gens qui sont dans les organisations politiques. Et même un certain nombre de gens qui sont autonomes sont aussi parfois dans certaines organisations politiques. Moi, par exemple, je suis autonome, mais je suis aussi au DAL, le droit au logement. Et j'ai l'impression que les deux sont complémentaires, mais globalement, le fait que les autonomes fonctionnent vachement avec des prises d'initiative, etc., c'est beaucoup plus facile d'impulser un mouvement de lutte depuis le milieu autonome qui, après, s'il est repris par des grosses organisations, va permettre de diffuser les informations beaucoup plus largement. Et pareil, pour réagir à des problèmes d'urgence, l'expulsion d'un bidonville ou quelque chose comme ça, le milieu autonome est beaucoup plus réactif, beaucoup plus efficace que les grosses organisations. Par contre, pour tout ce qui est faire de la propagande ou lutter sur des sujets nationaux ou très vastes, les organisations, les grosses organisations vont être beaucoup plus efficaces. Et du coup, on est assez complémentaires à Grenoble et souvent, on arrive à s'entendre à peu près avec quelques difficultés quand même pour faire des choses ensemble. Mais par exemple, sur la question du lien avec le milieu du travail, une fois, j'avais discuté avec une personne à Lutte ouvrière.
Lutte ouvrière est un parti politique français dont le positionnement idéologique est communiste révolutionnaire et trotskiste. Peut-être un peu plus que les autres organisations d'extrême gauche, Lutte ouvrière est parfois accusée d'être trop repliée sur elle-même. Ses principales figures sont Arlette Laguiller et Nathalie Arthaud.
Et qui m'a expliqué qu'avec mon mode de vie de vivre de récup et tout ça, j'étais pire que les actionnaires et que je vivais au crochet du prolétariat. Et en même temps, il y a d'autres organisations de défense des travailleurs, comme par exemple le syndicat solidaire, où ils ont un syndicat solidaire précaire, où par exemple, on s'entend beaucoup, beaucoup mieux. Et entre des personnes qui vivent au RSA par choix, des personnes qui vivent de récup, des personnes qui cherchent du travail mais qu'en trouvent pas, en fait, les liens, ils sont assez forts parce qu'on vit la même chose et du coup, il y a moyen de créer des ponts.
J'ai commencé l'enregistrement en parlant de ce sujet, l'association de malfaiteurs, qui est utilisée comme un outil judiciaire par l'État pour criminaliser les personnes en lutte. Est-ce que tu pourrais parler brièvement de la situation à Grenoble et environ ?
Alors, ça fait plusieurs années qu'il y a eu pas mal d'actions, comment dire, destructives de plein de types différents, mais que ce soit par exemple des vitrines brisées, il y a eu un moment où il y a eu toute une ligne de tram où il y a de la mousse expansive qui a été mise dans les validateurs de billets. Il y a eu un parking où il y a plein de voitures d'Enedis qui ont brûlé. Et il y a deux gendarmeries qui ont subi un incendie. Du coup, il y a eu beaucoup d'actions comme ça qui ont été après revendiquées sur les automédias locaux comme Indie Media Grenoble et après Indie Media Nantes quand Indie Media Grenoble a arrêté d'exister. Et du coup, la police a enquêté là-dessus, mais semble-t-il, ils n'ont pas trop réussi à obtenir des éléments concrets qui leur auraient permis d'arrêter des gens, parce qu'ils ont fait pas mal de perquises, ils ont interrogé pas mal de gens, y compris interrogé des gens sur, par exemple, il y a des gens qui sont allés, des jeunes qui faisaient une soirée, qui étaient bourrés, qui sont allés faire des tags anarchistes sur des murs dans un village aux alentours de Grenoble. Et les policiers ont vu qu'ils avaient fait des tags anarchistes et du coup ont posé directement des questions sur les incendies de gendarmerie et tout ça. Ils ont fait des perquisitions dans des squats en essayant de ficher tous les gens en prenant leur ADN. Ils ont demandé aux gens s'ils avaient des chaussures de marche taille 42 et des lampes frontales dans un squat. Enfin, du coup, c'est vraiment plein d'éléments comme ça qui montrent que, ben, a priori, leur dossier il est vide et qu'ils ne sachent toujours pas qui c'est qu'ils doivent attraper. Pour essayer de faire avancer l'affaire, ils ont décidé de créer une association de malfaiteurs qui rassemblerait l'ensemble des gens qui auraient commis des dégradations après et les avoir revendiquées sur Internet après à Grenoble. Comme si c'était un seul ou même groupe qui était responsable de toutes ces actions et du coup créer une association de malfaiteurs là-dessus, sachant qu'ils ont toujours a priori aucune idée de qui serait dans cette association de malfaiteurs et qui ne serait pas dedans. Et ils utilisent cet outil-là pour avoir beaucoup plus de pouvoir d'action judiciaire. Par exemple, ils ont réussi à obtenir le mandat d'un juge pour faire des perquisitions dans 5 lieux collectifs à Grenoble, donc 4 squats et une coloc, et aussi à la ZAD de Roibon de façon simultanée. Ils ont récupéré tout le matériel électronique de ces 5 lieux.
La ZAD de Roibon, ZAD pour zone à défendre, est un espace occupé dans la forêt de Chambaran, dans l'Isère, depuis 2014, jusqu'à son expulsion par les gendarmes mobiles en octobre 2020. Les zadistes s'opposaient à la transformation d'un espace naturel en centre de vacances Center Parks par le groupe Pierre et Vacances, comprenant commerce, restaurant, piscine, jacuzzi,
pour la modique somme de 390 millions d'euros. Face à la résistance, l'industrie du tourisme a jeté l'éponge en juillet 2020.
Ouais, ils servent de ça pour faire de la répression du milieu anarchiste en général, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu laissé tomber la chance de réussir à résoudre cette enquête et qu'ils servent plus de l'existence de l'enquête pour faire de la répression que pour la résoudre vraiment parce qu'ils n'ont aucun élément. Et parce qu'a priori, quand les gens prennent des précautions, ben, la quantité d'éléments probants est assez faible, suffisamment faible pour ne pas pouvoir identifier des gens qui ont commis des actions, quoi.
De quelle façon tu penses qu'on doit s'adapter face à une répression qui est, dont on perçoit qu'elle est grandissante ?
Il faut faire plus attention, en fait, en termes de sécurité. Les gens se lancent dans des actions potentiellement où ils risquent de se faire réprimer sans avoir un minimum de connaissances en fait, de comment fonctionne la répression et de formation sur comment y répondre. Par exemple, si les gens ne sont pas formés sur la garde à vue, il y a de bonnes chances que quand on leur pose des questions avec insistance, ils se sentent obligés de répondre et de donner des informations qui peut-être leur semblent anodines, mais en réalité, elles vont servir aux enquêteurs à les charger eux ou même quelqu'un d'autre. Et du coup, pour moi, la formation, c'est super important. Et c'est ce qu'on essaye de faire un peu avec le collectif anti-répression, de transmettre un peu les bonnes pratiques. Et puis après, il faut aussi faire attention au niveau informatique, en fait, parce que les réseaux sociaux, c'est des vraies mines d'or pour les flics, quoi. Du coup, jamais mettre de référence à des actions illégales ou à faire des liens entre différents groupes que la police pourrait voir comme séparés, qui en réalité ne le seraient pas, que ça se voit par les réseaux sociaux en fait. Et puis après, il faut faire attention à l'anti-rep de façon un peu plus physique, faire attention à ne pas laisser des empreintes partout quand on fait des actions. Pas laisser son ADN, pas laisser des éléments matériels, quoi. Et puis, il faut réussir à, plus collectivement, à réussir à refuser collectivement, en fait, de participer à la répression si on arrive à faire en sorte que tout le monde refuse de donner son ADN, par exemple, dans le milieu. Et ben, c'est beaucoup plus difficile pour la police derrière de pouvoir identifier les gens qui seront responsables des actions, ou par exemple quand il y a une manifestation, s'il y a 50 personnes que la police essaye de contrôler, si tout le monde refuse collectivement de donner son identité, effectivement on peut se faire nasser quelques heures, mais la police peut aussi juste dire « Ah bon, on n'a pas l'énergie de faire 50 vérifications d'identité et du coup on laisse partir tout le monde, quoi. » Et du coup il y a un aspect collectif qui moi me semble super important, et il faut réussir tout en se protégeant comme ça à avoir une forte solidarité, en fait, quand il y a quelqu'un qui se fait condamner, de dire qu'il y a du soutien, que ce soit politique ou financé pour payer des avocats ou pour donner des pistes de défense sur des sujets qu'on a déjà réussi à avoir, à faire passer les informations. Et puis l'autre piège, c'est aussi, il ne faut pas être dans une culture de la sécurité vraiment fermée, où les gens extérieurs n'arrivent plus à rentrer et qu'on se retrouve dans une bulle isolée du reste de la société. Il faut vraiment créer une ouverture, aller travailler avec plein d'autres groupes. Moins on est isolé, plus on est en lien avec plein de gens, les syndicats, les partis politiques, tous les groupes de lutte écologistes, etc. Et plus c'est difficile de dire « Ah, regardez, ça, c'est les méchants petits anarchistes qui brûlent des gendarmeries et qui essaient de chercher à créer de la dissociation dans le reste du milieu, quoi. » Il y a certains milieux qui vont être ciblés prioritairement, mais une fois qu'on est complètement réprimé, bah, c'est les autres qui sont réprimés après. Ils visent toujours les plus radicaux, mais les moins radicaux, ils sont en deuxième ligne, en fait. Et du coup, c'est important de réussir à, quand il y a des gens qui font des actions plus radicales que nous, de jamais se dissocier. Et pareil pour les personnes qui font des actions radicales, de ne pas se dissocier non plus des personnes qui font des actions moins radicales, de rester ensemble comme un seul groupe pour ne pas laisser prise à la division.
Ce que tu disais sur les prélèvements ADN et sur le refus collectif de donner son identité, ce que tu dis, c'est que du coup, ce serait souhaitable que ce soit des pratiques de défense collective et donc les plus répandues possibles, mais du coup, ça me paraît difficile. C'était ça, moi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est comment faire pour que, en fait, que ce soit dans une action où on est peu nombreux ou dans une manifestation et où ça commence à partir, qu'il y a des problèmes avec la police ou autre, quoi. Comment faire pour que, bah, en fait, il y ait cette culture qui soit répandue de façon qui soit bien plus large du coup que dans un milieu politique particulier, quoi.
Pour moi, c'est ça qui est important dans le fait de faire des discussions avec plein de groupes et de faire des formations. En fait, réussir en discutant à créer une culture de la sécurité commune et qu'on puisse s'attendre que les autres aient à peu près les mêmes modes de réaction que nous. En gros, ce qui est dangereux, c'est quand il y a de l'imprévisibilité, que par exemple on pense que des gens, c'est sûr qu'ils vont nous soutenir et qu'en fait ils nous soutiennent pas. C'est ça qui est compliqué. Si on sait à quoi s'attendre, on peut s'adapter en fonction. Mais globalement, moins on donne d'éléments à la police et mieux tout le monde se porte. Et globalement, ça, par exemple, sur le fait quand il y a des interrogatoires, des gardes à vue, des choses comme ça, à Grenoble, j'ai l'impression, c'est même dans les milieux plus syndicalistes, par exemple, c'est acté que dire je n'ai rien à déclarer à toutes les questions que peuvent poser la police, c'est quelque chose qui va protéger collectivement. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas dans le milieu, même milieu syndical à Grenoble, c'est quelque chose qu'on a réussi à bien faire passer. Et bon, on a un peu plus de mal dans les milieux écolos, parce que souvent il y a encore la pratique de, par rapport à la répression, de se dire s'il y a des procès, ça va nous faire une tribune politique. Ce qui est bien quand on a fait des petites actions non violentes, mais dès qu'on commence à faire des actions un peu plus grosses, ben, le genre ne vaut plus trop la chandelle.
Et ce sera ma dernière question. Alors, j'espère que tu l'as préparé. Quel conseil ou quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui nous écoutent pour les inciter à agir davantage ?
Ouais, bah pour moi, mon message, c'est quel que soit votre projet, en fait, c'est possible de le faire. C'est possible de s'organiser avec des gens qui ont le même projet que vous pour le faire. Il ne faut pas attendre d'avoir l'autorisation de ses adversaires, en fait, pour commencer à agir. Et il ne faut pas attendre non plus l'autorisation de ses amis pour commencer à agir non plus. Si les gens avec qui on travaille habituellement n'ont pas envie de participer à un projet qu'on a envie de faire, en fait, c'est possible de rester amis avec ces personnes-là et trouver d'autres partenaires pour faire d'autres projets. Et souvent, on arrive à faire à peu près tout ce qu'on veut. Enfin, je suis sûr que si on voulait, on pourrait faire un programme spatial autogéré et juste, on n'a pas envie parce qu'on a autre chose que ça à foutre dans la vie. Je suis vraiment persuadé que c'est possible de faire tout ce qu'on veut de façon autogérée si on s'en donne les moyens. Et ouais, la liberté, ça se demande pas, ça se prend, quoi. Tout en n'oubliant pas que plus il y a de gens libres autour de nous et plus on est capable de mettre en place les idées, qu'on a envie de faire. Et du coup, il faut... Si on maximise la liberté des gens autour de nous, ben, ça maximise aussi notre liberté à nous de faire des projets, d'être plus libre, de s'autonomiser par rapport à toutes les structures de domination qui existent.
Merci encore pour tout ça. Ça m'a fait bien plaisir d'échanger à nouveau avec toi aujourd'hui. Et tu m'avais parlé tout à l'heure d'un prochain rendez-vous à Grenoble. Je crois que ce sera en avril et justement sur l'anti-répression.
Ouais.
Tu peux en parler un peu ?
Du 2 au 17 avril, on va faire une quinzaine anti-répression. Il va y avoir plein d'événements sur le thème de la répression. La programmation, normalement, sera assez éclectique parce que le but, c'est pas de faire une formation anti-rep descendante, mais qu'il y ait plein de gens qui proposent des activités avec des points de vue divers et variés et de créer du débat. Parce que ça nous sert aussi, nous, à nous auto-former, en fait. Du coup, on va avoir... des formations, des débats, des discussions, etc. Et il y aura plein de choses à faire. Du coup, si vous êtes vers Grenoble en début avril, n'hésitez pas.
Trop bien, je serai peut-être un peu dans le coin, je verrai ça. Merci à toi.
Merci à toi aussi.